autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Quand les chercheurs jouent les hommes préhistoriques et reproduisent leurs gestes, pourquoi apprendre à tailler la pierre comme eux? Depuis le 19e siècle, l'archéologie expérimentale, une discipline très développée en France, nous rapproche de nos ancêtres. Elle nous aide à retracer le fil de notre humanité il y a 3 millions d'années ou même il y a 2000 ans. Pour ces chercheurs, ressentir les mêmes sensations que nos ancêtres, c'est faire un pas de plus pour les comprendre.
Toucher la matière, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et sincèrement, je trouve fascinant de se retrouver au fin fond de la vallée de l'Omo, à récupérer des blocs dans les terrasses. On ne va jamais tailler des objets archéologiques, bien entendu. On va récupérer des blocs. On installe une bâche, le soleil se couche. À côté de nous, il y a des crocodiles. Ça, c'était le cas cette année. Ils chassent, on les entend claquer des dents parce qu'ils poursuivent des poissons. Quelques oiseaux viennent nous voir et on taille du quartz. Alors après, il y a une petite partie de cinéma interne qu'on se fait tous. Se retrouver effectivement dans les mêmes lieux, quasi les mêmes lieux, utiliser même les mêmes types d'outils. En tous les cas, essayer de les fabriquer, bien sûr, c'est fascinant.
Reportage. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le laboratoire d'expérimentation de Jalès, en Ardèche, antenne du laboratoire Archéorient. Nous irons également à la maison de l'archéologie et de l'ethnologie de l'université Paris-Nanterre. Et pour un petit pas de côté, au cœur de la réplique de la grotte de Lascaux, Lascaux 4, en Dordogne, autour de la question « Comment rentrer dans la tête de nos ancêtres ?» Bienvenue. Nous allons suivre des chercheurs qui se mettent dans la peau d'hommes préhistoriques jusqu'à tailler, comme eux, le silex pour reproduire les outils de nos ancêtres et leurs gestes pour les fabriquer. Alors on parle d'archéologie expérimentale ou d'expérimentation, quelle que soit l'époque en question, qu'il s'agisse d'il y a 2 millions d'années ou d'il y a 2000 ans, le but est le même, c'est de reproduire des outils trouvés sur le terrain, des lames, des outils agricoles ou des flèches, pour ensuite utiliser ces répliques afin de mieux comprendre la fonction des objets originaux découverts sur le terrain. Alors, des expérimentations de ce type sont menées dans plusieurs endroits du monde, comme dans le pittoresque laboratoire de Jalès, une belle bâtisse isolée au cœur de l'Ardèche, au sud de la France. C'est une antenne du laboratoire Archéorient qui étudie l'archéologie au Proche-Orient, rattachée au CNRS et à l'université Lumière Lyon 2. J'ai pu assister à une expérimentation qui a duré plus d'une semaine. Quand je suis venue, ils étaient 6 archéologues, plus ou moins rompus à la taille de pierre. L'objectif était simple, tailler une centaine de flèches en silex, semblables à celles trouvées sur un site archéologique syrien, le site de Jadeh, daté d'il y a 10 000 ans, qui avait été fouillé avant la guerre. Alors comment faire? Eh bien, en utilisant du silex local et du roseau qui avait lui été ramassé dans le nord de la France pour fabriquer des fûts de flèches de 80 à 90 cm. Alors tout cela est taillé dehors, au coin du feu, dont on a parfois besoin d'ailleurs pour certaines étapes de fabrication. Il est 9h du matin, c'est le moment de s'y mettre. Frédéric Abès, préhistorien au sein du laboratoire Archéorient, donne quelques instructions pour la journée.
On prend l'embout, on le trempe dans la pâte et on le remet en place. C'est juste pour qu'il soit tenu provisoirement. Il faut mettre un peu de pâte.
Et on fait ça dehors ?
Où vous voulez. Après, c'est au niveau du confort de travail. Si on est mieux près du feu, on reste près du feu. Si on veut être au chaud ici, c'est bien aussi.
Donc tout le monde a une occupation ?
Eh bien, ça roule. C'est bien. En fait, on fait des flèches en série. On a vraiment besoin d'en faire beaucoup pour l'expérimentation. Donc on essaie simplement de rationaliser le travail. Voilà. Et on fonctionne par étapes. C'est surtout le démarrage qui est un petit peu compliqué, parce qu'on est un petit peu endormi encore. Les flèches qu'on cherche à reproduire, c'est un système qu'on imagine pour le Proche-Orient. En fait, on a des abondances de roseaux le long de l'Euphrate ou du Tigre, et très peu de bois, d'autres types de bois qui peuvent convenir pour faire des flèches.
Alors, on imagine que c'est avec ça que les flèches ont été réalisées.
Donc après, on essaye de voir comment emmancher de grosses pointes en silex sur un fût en roseau. On sait qu'ils utilisaient l'arc, ne serait-ce que par des représentations qu'on peut avoir. Un roseau, c'est quelque chose de fragile. Comment il peut supporter une charge pareille? Donc c'est vraiment ça le défi. Alors on ne sait pas si on va réussir, mais en tout cas, on s'amuse beaucoup.
Et ces flèches retrouvées, elles datent de quelle époque?
Alors le modèle qu'on reproduit, ça remonte, je dirais, aux environs du 8e millénaire. C'est une modalité qui apparaît d'abord en Syrie et qui après se diffuse sur l'ensemble du Proche-Orient, aussi bien au Liban, en Israël, en Palestine, en Turquie, en Égypte.
Donc là, il y a deux travaux, en fait. C'est reproduire en fait les roseaux qu'on imagine, en fait, oui. Et puis aussi reproduire les flèches, la pointe des flèches.
La pointe des flèches, oui.
Silex.
En silex. Là, il y a un problème, mais tout bête, c'est le froid. Il fait vraiment très froid. Et tailler le silex lorsqu'il fait froid, c'est extrêmement pénible, ne serait-ce qu'au niveau des doigts. On a les doigts gelés, et donc on est malhabile. Et si on est malhabile, on ne réussit pas.
Et vous, c'est un terrain que vous connaissez aussi, la Syrie, en fait. Vous passez du terrain à ici, la reproduction.
Je crois que la première fois où j'y ai mis les pieds, c'était en 92. Et depuis 92 jusqu'à la Révolution, on y a été quasiment tous les ans.
2011,
oui. Ouais.
Mais pour vous, c'est un travail intéressant, voilà, d'avoir été sur le terrain, d'avoir collecté des objets. Et aujourd'hui, c'est la continuité, en fait, d'essayer de les reproduire et de les comprendre.
C'est complètement la continuité, voilà. Il faut imaginer que lorsqu'on est sur un site archéologique, on va se retrouver avec un monceau de données, parfois gigantesques, beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Une des principales qualités, c'est l'imagination. On ne va pas inventer des choses improbables, on a une gamme de possibles et on essaye de tester les différents possibles. En fait, l'expérimentation apporte rarement des réponses, mais elle permet d'éliminer des hypothèses. Rien que ça, c'est quelque chose d'énorme. Et en France, ça remonte au 19e siècle. Et c'est un archéologue qui s'appelait Jacques de Morgan, qui était pas que préhistorien, mais aussi préhistorien. Et il s'était retrouvé face à une collection d'objets en pierre. Et le débat qu'il y avait à l'époque, c'était est-ce que les objets étaient fabriqués par l'homme ou pas. En fait, on imaginait que la nature, dans certaines conditions, pouvait reproduire des objets. Et de Morgan, lui, était convaincu que ces objets étaient complètement anthropiques et avaient été fabriqués. Et il a eu l'idée, tout simplement l'idée, de faire appel à un géologue. Et le type n'avait jamais tapé sur un silex. Il a demandé au géologue, est-ce que tu pourrais reproduire cet éclat? Et le géologue a commencé à taper sur des blocs et naturellement retrouvé des gestes. Et il a reproduit les éclats. Et à partir de là, en fait, ça fait boule de neige. Tout le monde s'est mis à expérimenter. Alors, on trouve des expérimentateurs au Danemark, en Espagne, en Allemagne, mais ça reste quand même une démarche très française. Et il faut savoir aussi qu'en préhistoire, c'est d'autant plus crucial qu'on va trouver finalement très peu de choses. C'est une façon différente de comprendre l'objet. Si tu ne t'expérimentes pas, si tu ne t'intéresses pas aux techniques, finalement, il y a une grande part de l'objet qui vont t'échapper.
Vous écoutez RFI autour de la question.
On se rapproche du feu. Alors là, qu'est-ce que vous faites, Michel Brenet ?
Alors là, on est en train de préparer des fûts de futurs fûts de flèches qui ont déjà été redressés plusieurs fois, en plusieurs étapes à la chaleur depuis 2 ou 3 jours. Et là, on est en train de les finir, c'est-à-dire qu'on est en train de finir ce redressage. Et ensuite, on est en train d'adapter les petits embouts de bois à une extrémité dans laquelle on va s'insérer la corde avec une petite encoche. Donc c'est un travail assez minutieux.
Donc là, vous avez... Voilà, le roseau dans la main gauche et dans la main droite, le couteau.
Et pour chaque embout, on passe au moins 1 heure à travailler avec un petit couteau, un petit bout de silex, à frotter, à gratter, à amincir, à racler.
Donc il y a un des embouts, c'est pour accrocher en fait la pointe de la flèche.
Exactement, voilà. Et pour ensuite pénétrer l'intérieur de la bestiole qui était chassée, c'est très solide et à la fois souple.
Fiona Pichon, donc vous êtes racéologue, vous êtes de l'autre côté du feu, là actuellement vous êtes deux en fait autour du feu. Ces flèches que vous êtes en train de reproduire, de créer, elles vont être utilisées en fait.
On va les utiliser, on va les tirer à l'arc, on est sur un sanglier mort.
Et ensuite vous allez donc récupérer les pointes pour les comparer avec les pointes d'il y a 8000 ans.
Je vais étudier les pointes expérimentales et essayer de voir s'il y a des stigmates caractéristiques de l'utilisation en tant que pointe de flèche pour la chasse.
Et pourquoi c'est un sanglier qui a été choisi ?
Pour l'instant, on a choisi ça parce que c'est ce qui a la peau la plus épaisse et qui pourrait correspondre potentiellement au niveau de la dureté au type d'animaux qui étaient chassés au Proche-Orient, comme l'auroch, par exemple.
C'est presque un travail d'artisan, en fait, là.
Oui. Puis nous, là, on travaille avec des outils modernes et des couteaux, mais si on devait faire ça avec des outils en silex, ce serait encore plus délicat, je pense.
Vous essayez de reproduire les mêmes techniques, en tout cas avec les mêmes outils, et parfois non.
C'est arrivé,
Non, en fait, on aurait pu essayer d'utiliser que des techniques archéologiques, mais on aurait mis beaucoup trop de temps là. Donc, bon, comme l'objectif, c'est quand même de construire les flèches, voilà, on a utilisé des outils modernes.
Romain Barbet, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce travail-là, près du feu ?
Ah, moi, je trouve ça vraiment très, très passionnant. Je travaille dans le milieu de l'archéologie préventive. J'ai découvert ici ce qu'était que l'archéologie expérimentale. J'avais déjà conscience que, par exemple, tailler du silex, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était complexe. On a une vision qui est sans doute un peu tronquée de l'homme préhistorique en général, enfin pas forcément que l'homo sapiens, mais ou que c'est quelqu'un d'assez primaire ou primitif qui va tailler du silex de façon opportuniste ou autre. Et en venant ici, on voit qu'il y a une multitude de chaînes opératoires et de réflexions de la part des tailleurs durant la préhistoire qui montrent que ce n'étaient pas des sauvages, mais réellement des hommes qui, dans leur façon de penser, étaient déjà extrêmement modernes. Est-ce qu'on pourra se rendre compte réellement des gestes qu'utilisaient les hommes préhistoriques? Je suis pas sûr. Et sans doute qu'on n'arrive pas à le voir sur des séries archéologiques, mais il devait y avoir des micro-variations dans la taille du silex qui faisaient qu'on pouvait peut-être reconnaître la patte d'un tailleur ou d'un autre. C'est pas du travail à la chaîne de taille du silex. Hein. C'est une réflexion permanente où on va tourner le bloc dans une main, on va orienter notre percuteur, notre point d'impact où on veut taper, il va changer à chaque fois. On s'adapte tout le temps. On peut regarder ce que font les autres, on peut s'en inspirer, quoi. Et sans doute que les hommes préhistoriques à l'époque faisaient aussi comme ça, avec des personnes plus expérimentées qui enseignaient aux personnes moins expérimentées comme moi à tailler du silex.
Tailler le silex, on l'aura compris, n'est pas si simple. Je vous avoue que je n'ai pas osé tenter l'expérience de peur de me blesser. Mais observer les archéologues en pleine taille force l'humilité. Il faut avoir le geste sûr, savoir exactement où frapper si l'on veut fabriquer des flèches parfaitement fidèles aux originales. Alors apprendre à manier la pierre comme nos ancêtres d'il y a 10 000 ans n'a rien d'évident. Je vous propose de retrouver l'archéologue préhistorien Frédéric Abbesse au coin du feu et en pleine action au bout d'une heure et demie de travail acharné, c'est la première fierté de la journée.
Elle est exceptionnelle. Plate, ogivale. Ah, je suis ému. Ça va être une pointe de flèche. Bon, on est là pour expérimenter.
Et vous êtes ému alors?
Oui, parce que mine de rien, c'est pas facile à faire. On peut obtenir une lame comme ça. Bon, ça peut paraître un peu prétentieux ce que je vais dire, mais si tout l'enchaînement des gestes qui ont précédé la lame sont parfaits. Si les gestes ne sont pas parfaits, elle ne sort pas.
Alors, on a entendu les bruits, mais du coup, on n'a pas vu. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le geste, enfin, ce que vous venez de faire, en fait, pour arriver à ça?
On a un bloc. Au départ, ça va être un bloc qui a une forme complètement aléatoire.
Là, le bloc, vous l'avez en main, il fait à peu près la taille de votre main.
Tout le défi, au départ, consiste à modifier cette forme. Ben en fait, je vais faire des tout petits coups avant de manière à le modifier et à le donner apte à produire quelque chose.
Ça veut dire, en gros, qu'avant de tailler des outils, les hommes, à l'époque, sculptaient la pierre.
C'est littéralement de la sculpture. Et une fois que la forme géométrique est donnée au bloc, on va commencer à extraire des éclats qui vont être allongés.
Dans la longueur du bloc.
Dans la longueur du bloc. On a besoin, en fait, d'instruments pour taper sur le bloc de silex, de maillets ou de pierres, qui doivent être durs pour travailler le silex.
Vous saisissez dans la main gauche le bloc de silex, qui est donc un bloc gris foncé. Et puis dans la main droite, vous saisissez le percuteur.
Voilà.
Et du coup, alors ce percuteur, en fait, donc c'est du bois de serre, ça ressemble à une corne.
Donc c'est l'instrument qui me sert à taper. C'est vraiment un outil très très personnel.
Vous avez appris à l'apprivoiser.
Quasiment, c'est exactement ça. En fait, ça va être un coup de marteau qui ne va pas rester sur l'objet qu'on martèle, qui va l'accompagner.
Vous accompagnez l'éclat, en fait?
Oui, je l'aide à sortir.
Et qu'est-ce qu'on sait de leur utilisation des flèches à ces hommes d'il y a 8000 ans, au Proche-Orient? Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Qu'est-ce qu'on a documenté là-dessus?
Alors, il y a peut-être trois destinations. D'abord, il y a la chasse. Alors ça, la chasse, elle est bien documentée. Avec ce type de pointe, ils vont chasser le roc. Le roc, alors c'était un bovidé sauvage. Ils vont chasser la gazelle, c'est quand même du gros gibier. La deuxième destination, c'est peut-être la guerre. Très rarement, on peut retrouver des squelettes humains avec à l'intérieur du corps des pointes de flèches. Donc on n'est pas toujours en mesure de dire si c'est une chasse qui a mal tourné, si c'est une vraie guerre. Et après, la troisième destination de ces pointes, c'est celle qu'on va retrouver dans les sépultures. Et ça va être de très belles pointes de flèches. Voilà. Donc là, c'est vraiment le cadeau qui va accompagner le défunt. Mais en même temps, ça montre à quel point ce type d'objet était précieux.
Et c'est pas facile à reproduire.
C'est assez compliqué à reproduire.
Comment vous les avez appris, en fait, ces gestes-là, pour tailler le silex ?
Je dirais des heures et des heures et des heures d'observation sur les exemplaires archéologiques et de tâtonnement. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Et puis, progressivement, on comprend les petits trucs qui permettent de les obtenir. On ne peut pas produire quelque chose comme ça si on n'est pas calme. Parfois, je vais commencer à mettre en forme, à sculpter ces blocs. Je vais m'arrêter parce que je sens que ce n'est pas le moment. J'avais eu un étudiant syrien qui était un très très bon tailleur. Alors lui, c'était encore pire. Il n'acceptait de tailler que devant un coucher de soleil. Alors ça peut paraître complètement ridicule. Il lui fallait l'inspiration. Mais du coup, il taillait juste quelques minutes par jour.
C'était pas très productif.
Non, pas du tout productif, mais ça prête à sourire, mais on ne sait pas trop comment il taillait non plus. Peut-être qu'il aussi avait besoin d'inspiration. Oui, il y a une part de poésie dans la taille.
La poésie du détail. Alors pour comprendre à quoi ont bien pu servir ces flèches, nous allons maintenant convoquer une tracéologue, Fiona Pichon, qu'on a entendue brièvement tout à l'heure. La tracéologie, c'est l'étude des traces laissées sur les objets archéologiques, celles laissées sur les fausses flèches et celles qu'on trouve sur les vraies flèches, les originales. Pour les comparer et les comprendre, l'expérimentation est indispensable.
Donc là, on a un assemblage de pointes de flèches qui proviennent du site de Djadeh en Syrie et Donc, ces pointes-là, il y a différents types, hein, au niveau des dimensions, des formes. Et puis, moi, j'ai étudié, j'étudie pour mes recherches, la fonction de ces pointes, donc les traces liées à l'impact.
Mais là, on ne voit pas trop de traces, en fait.
En fait, ça, potentiellement, ça peut être lié à de l'impact. Au moment de l'impact, ça a enlevé des éclats assez longs. Comment ça rentre dans l'animal, ou alors peut-être que c'est tombé au sol. Mais justement, ça, c'est ce qu'il faut que je détermine.
Donc, si cette flèche a atteint un jour un animal, quel qu'il soit.
Voilà. Alors, moi, je ne pourrais jamais déterminer le type d'animal qui était chassé. Par contre, on le sait par les analyses des ossements animaux qu'on retrouve sur les sites.
Donc là, il y a une centaine de flèches qui, dans le cadre de cette expérimentation, vont être utilisées sur un sanglier mort qui sera suspendu. Ensuite, vous allez étudier en fait les traces qui ont été laissées sur ces flèches.
Oui, du coup, je vais observer les 100 flèches qu'on va tirer. Toutes les pointes qui auront été tirées, je vais les observer à différentes échelles, donc avec une loupe binoculaire pour des observations macroscopiques. Et puis ensuite, je passe à une échelle microscopique. Moi, dans le cadre de l'expérimentation, j'essaie de déterminer quelles vont être les fractures qui peuvent être diagnostiques d'un impact, donc d'une utilisation pour la chasse.
Le but, c'est de comprendre si elles ont été utilisées pour tuer des animaux, en fait, c'est ça.
Pour comprendre mieux ces objets dans un contexte où on est quand même à la veille de l'élevage. Donc, c'est des questions importantes de savoir quel était le statut de la chasse et du chasseur au sein de ces sociétés qui deviennent agricoles. Est-ce que ça peut être un statut qui est valorisé ? Est-ce que les pointes, enfin à travers ces objets-là qui sont quand même particuliers et qui sont beaucoup produits dans ces périodes, qu'est-ce que ça représente en fait la chasse ?
Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans la tracéologie ? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un peu magique, je trouve, parce que quand on passe à l'échelle vraiment microscopique, on découvre tout un monde que personne soupçonne et c'est très beau, moi je trouve, les traces. Bon, ça dépend lesquelles, hein, mais j'ai vraiment des moments où je trouve ça un peu lunaire. Donc de me dire que de passer à une échelle aussi petite, on arrive à dire tant de choses, c'est assez incroyable. Et on remonte un peu sur le quotidien en fait de ces populations, de ces groupes. C'est vraiment le remonter, reconstituer la vie de l'objet à partir de d'une trace. C'est très très réel en fait.
La vallée semble figée, au loin je peux te voir glisser sur ces chemins. Marche. vraiment tout pour me plaire. Tu étudies le poids de l'air, le frais, le chaud.
De la question « Comment rentrer dans la tête de nos ancêtres ?» Reportage aujourd'hui sur RFI. C'était la voix de Françoise Breu avec « La proie ». Et sa voix à lui a ouvert l'émission. Tout à l'heure, Michel Brenet est archéologue à l'INRAP. Je l'avais rencontré dans la vallée de l'Omo en Éthiopie pour un reportage diffusé dans notre émission. Et lui aussi était là, dans ce laboratoire de Jalès, en Ardèche, pour cette expérimentation sous un climat bien moins aride. Il a aussi taillé sans relâche pendant quelques jours des flèches, semblables à celle retrouvée en Syrie et datée d'il y a 10 000 ans. Passionné par les expérimentations, Michel Brenet en mène régulièrement pour reproduire des outils parfois beaucoup plus anciens, à l'image de ceux retrouvés dans l'Omo, au sud de l'Éthiopie, et datés de 2,3 millions d'années.
Toucher la matière, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et sincèrement, je trouve fascinant de se retrouver au fin fond de la vallée de l'Omo, à récupérer des blocs. Dans les terrasses, on ne va jamais tailler des objets archéologiques, bien entendu, on va récupérer des blocs, on installe une bâche, le soleil se couche, à côté de nous, il y a des crocodiles, ça c'était le cas cette année, hein, qui chassent, on les entend claquer des dents parce qu'ils poursuivent des poissons, quelques oiseaux viennent nous voir, et on taille du... cette année, c'était du quartz. Alors après, il y a une petite partie de cinéma interne qu'on se fait tous, se retrouver effectivement dans les mêmes lieux, quasi les mêmes lieux, utiliser même les mêmes types d'outils, en tous les cas essayer de les fabriquer, bien sûr c'est fascinant. La première fois que j'ai taillé, c'était il y a, je sais pas, en 1986-87, donc ça remonte à près de 30 ans, hein, pas plus de 30 ans même. Dans un premier temps, je comprenais pas. Je voyais des gens qui taillaient, donc des très grands chercheurs qui taillaient magnifiquement bien, qui sont toujours des très grands chercheurs, qui taillent toujours mieux que moi. Je les voyais taper ici et je voyais des éclats qui sortaient, je comprenais pas. À vrai dire, je ne vous ai pas trop les interrogés, mais néanmoins, au bout d'un an, j'ai commencé à piger un petit peu, à comprendre. Voilà, je tape ici, les éclats sortent ici. Donc la taille, pour moi, en tous les cas, l'expérimentation, et personnellement, c'est non seulement, je trouve que c'est important, puis j'y prends beaucoup de plaisir. Bon, sincèrement, effectivement, quand il y a des échecs, c'est terrible. Il m'arrive même de réfléchir la nuit, pourquoi j'ai fait cette erreur. Bon, il se trouve que moi-même, je travaille dans d'autres sites, au Kenya, à plus de 3 millions d'années, et en particulier un site qui s'appelle l'Omekwi, jusqu'à présent le site archéologique le plus ancien au monde, dans lequel on a découvert alors, des industries de 3,3 millions d'années. Donc dès l'époque, dès 3 millions d'années, les hominidés de l'époque, on ne les connaît pas pour l'Omekwi, on ne sait pas encore. Hein. Donc à l'Omekwi, on a découvert des nucléus, hein, des blocs qui ont été débités sur enclumes, des enclumes et des éclats. Ces enclumes peuvent faire jusqu'à 8-10 kilos. Donc pour essayer de mieux comprendre et de valider les hypothèses de débitage sur enclume à l'Omekwi, on a effectué effectivement une cinquantaine de tests expérimentaux en laboratoire en important des blocs de l'Omekwi, du Kenya. Donc l'étape suivante, c'était de mieux comprendre non seulement comment ils l'ont fait, mais quels étaient les gestes nécessaires à la fabrication de ces objets. C'est la raison pour laquelle, pour ces premières expérimentations, j'ai été équipé de capteurs musculaires. Donc chacun de mes muscles du bras droit et de mon épaule est équipé de deux petits capteurs qui enregistrent l'intensité d'utilisation et d'action des muscles, de tous ces muscles, et de réflecteurs lumineux placés sur chacune de mes articulations. Donc au moment où j'effectue les gestes de taille qui permettent de voir tout ça en 3D. Et tout ça ensuite est interprété par les paléanthropologues, non seulement pour savoir comment Michel Brown taille, parce que ça c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Il faut interpréter, est-ce que les mouvements qu'on enregistre à ce moment-là sont compatibles avec ce qu'on connaît des Homo habilis ou des Australopithèques qui ont éventuellement débité les objets de Dolmékoui. Est-ce que c'est compatible avec l'état de nos connaissances? Et c'est, effectivement, c'est le cas. Hein. C'est compatible avec ce qu'on connaît. Par la suite, il se trouve que depuis un ou deux ans, maintenant, notre protocole expérimental évolue à tel point qu'on essaye d'équiper pratiquement tout mon corps. On essaye de travailler sur l'aspect cognitif de ces expérimentations. Que se passe-t-il au moment des différentes actions? Des actions volontaires, des actions involontaires, c'est-à-dire les petits accidents de taille, les mouvements du corps. Que se passe-t-il dans le cerveau?
En fait, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau quand vous taillez.
Quelles aires cérébrales sont activées à ce moment-là? Bon, j'ai un casque avec une trentaine de petits capteurs qui enregistrent l'activité cérébrale. Mais est-ce que c'est compatible avec ce qu'on connaît de la morphologie, de l'anatomie de ces hominidés? Et en fin de compte, chacune des expérimentations nous produit de nouvelles questions qui nous permettent d'avancer et de progresser même dans la manière de fouiller, la manière d'interpréter les artefacts archéologiques. Ce qui est fascinant dans la technologie lithique, c'est que pendant 3 millions d'années, les hommes ont inventé des techniques, les ont fait évoluer, mais elles ont accompagné l'homme et l'ont permis de survivre.
Autour de la question comment rentrer dans la tête de nos ancêtres, comment se mettre à leur place et se figurer leur monde, celui qui les inspire et nourrit leur expression artistique. C'est un petit pas de côté que nous vous proposons maintenant. On va s'éloigner un temps de l'archéologie expérimentale pour s'interroger comment peindre comme nos ancêtres d'il y a 20 000 ans. C'est tout le défi de la dernière réplique de la grotte de Lascaux, Lascaux 4, ouverte en 2016. Lascaux, c'est une grotte ornée, particulièrement bien conservée, découverte en 1940 en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, par 4 adolescents et leurs chiens. Après 15 années d'ouverture au public, de 1948 à 1963, elle s'est abîmée et aujourd'hui il faut la protéger, on ne peut plus la visiter. Par contre, on la reproduit. La grotte de Lascaux en est à sa troisième reproduction. La première réplique d'une partie de la grotte a ouvert en 1983, puis il y a eu Lascaux 3, une expo itinérante avec des fausses parois fidèles aux originales, qui parcourt le monde, et j'ai pu visiter Lascaux 4, la reproduction parfaite et récente de la grotte dans son intégralité, le fruit d'un travail fastidieux et merveilleux de 25 artistes peintres, tous chapeautés par des chercheurs bien sûr, dont le passionné Jean-Pierre Chadel, archéologue préhistorien et chercheur au sein du laboratoire Pacea, rattaché à l'université de Bordeaux.
Si on commence par l'entrée, on voit l'entrée telle que les gamins l'ont connue à peu près.
1940.
Voilà. Alors, cette grotte, on dit qu'elle a 20 000 ans. Les peintures ne peuvent pas être datées précisément parce qu'elles ne sont pas faites avec des charbons de bois, mais avec des colorants naturels. Mais par contre, on a pu dater des objets qui ont été trouvés dans la grotte et qui portent les mêmes signes que les signes qui sont dessinés sur les parois. Et donc ça nous fait maintenant en date calibrée, ce qu'on appelle en date calibrée, une grotte qui a 20 000 ans.
Et donc dans cette reproduction de Lascaux, on a la salle des taureaux, voilà, en circulaire, oui, puis une galerie là, qu'on voit là, d'ici.
Voilà, la galerie qui part dans l'axe de la salle des taureaux et qu'on appelle le diverticule axial traditionnellement. Mais on est tout à fait dans les mêmes conditions que la grotte originale. Et donc on peut passer du temps, on peut observer des choses tout à fait extraordinaires. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Parce que voilà, on va en reparler un petit peu plus loin de ça. On voit ces quatre grandes vaches rouges ici. Moi, j'aime bien une petite gravure qui est un petit peu plus loin, hein, qui est le petit cheval qui est sur un triangle comme ça, sur une arête de roche. Il a la tête et les pattes avant d'un côté, le corps et les pattes arrière de l'autre. Quand on voit cette succession de chevaux jaunes avec une crinière noire, et puis qu'au fond de la galerie, on en voit un qui tombe à la renverse, et puis après sur l'autre flanc, on les voit qui remontent comme ça, vers la sortie, vers l'entrée de la grotte. Ce sont des choses, ici sur cette calcite blanche, il n'est pas question d'enlever de la peinture, si on s'est trompé, quoi. C'est d'une sûreté de main, c'est tout à fait extraordinaire. Quand le panneau est grand, les animaux sont grands. Quand le panneau est petit, on fait une petite cavalcade plus petite. Voilà, c'est... Ce sont des choses qui sont plus complexes que simplement dessiner un animal ou comme ça. Il y a des scènes qui sont des scènes animalières où on voit des animaux qui cavalcadent dans une prairie avec certains qui sont en train de humer la jument qui les précède dans un geste de pré-accouplement. Il y a des scènes narratives comme ça. Voilà, il y a certainement des histoires qui sont racontées là, mais voilà, on n'a pas la clé. C'est toujours difficile de se mettre à la place de gens qui vivent dans des mondes complètement différents du nôtre. Et je sais que moi, je suis archéologue, je ne suis pas préhistorique, je ne suis pas chasseur de rennes, ni peintre de chevaux comme ça, magnifique. Voilà.
Qu'est-ce qu'on sait des ancêtres en fait, qui ont peint ici, qui ont gravé ici ?
Alors, ce sont des chasseurs-cueilleurs de l'époque qu'on appelle paléolithique récent ou paléolithique supérieur. Et ce sont des gens qui vivent de la chasse des troupeaux, de grands herbivores comme le renne, comme le cheval, et qui sont des gens qui sont nomades.
Et qu'est-ce que cette grotte, la reproduction qu'on en voit, avec voilà, là, les taureaux, on a aussi beaucoup de symboles, de signes, on a beaucoup de choses en fait, à observer, on pourrait rester pendant des heures ici, en plus le fait qu'il y ait peu de lumière aussi nous donne envie de contempler plus. Qu'est-ce que tout ça, ça nous apprend en fait, de ces hommes-là ?
Ben, ça donne l'image d'une société qui est en pleine possession de son temps, j'allais dire de son bonheur. Ce sont des maîtres. Ah oui, avec des moyens rudimentaires, je vous dis, simplement des moyens naturels, des pigments naturels, des crayons, peut-être des pinceaux aussi, des tampons. Avec ces moyens-là, ils ont fait une œuvre extraordinaire. Et ce sont des artistes. Pour qu'une société arrive à développer ces talents-là, ça veut dire que ces gens ont du temps pour eux, ont du temps et de l'apprentissage, que les techniques se transmettent, que ce sont des sociétés qui sont tranquilles.
Est-ce qu'on a retrouvé des outils pour les peintures ?
Alors, les outils pour les peintures, non. On a trouvé quelques outils qui ont pu servir à de la gravure, mais c'est même pas sûr. Par contre, on a trouvé beaucoup de restes culinaires. Oui, il y a beaucoup d'os de rennes, de chevaux dans ce dépôt. On a retrouvé ça un peu partout, dans toute la grotte. Donc il n'y a pas eu que de la peinture, il n'y a pas eu que de l'art sacré. Il y a eu aussi de la vie humaine qui s'est développée un peu partout. Il y a eu de la taille de silex. Il y a eu bien sûr beaucoup de préparation de colorants. Et il y a eu énormément de lampes. On a récupéré jusqu'à 150 lampes. Mais qui sont simplement des petites plaquettes calcaires qui ont un petit creux dans lequel on peut mettre la graisse et puis une mèche pour obtenir de la lumière. Mais Lascaux, c'est quand même un petit miracle de conservation.
Avec néanmoins plein de mystères.
Et puis ça c'est sûr, oui, le mystère c'est les 20 000 ans qui nous séparent d'eux et puis ce changement complet de société à partir du moment où l'homme devient sédentaire, se met à cultiver la terre et cesse de galoper après les grands troupeaux. Comme c'était le cas à l'époque.
On quitte la réplique de la grotte, parfaitement semblable à l'original, pour rejoindre une autre partie du musée, appelée l'atelier. Certaines parois reproduites y sont visibles de plus près. Pour nous guider, Gilles Lafleur, il a été le chef peintre de cette réplique, Lascaux 4. Alors là, on est dans ce qu'on appelle l'atelier, où en fait, il y a différentes parois en facsimilé qui sont réparties dans la salle.
Voilà, qui sont suspendues, où les gens peuvent s'approcher beaucoup plus, c'est beaucoup plus éclairé, ils peuvent passer le temps qu'ils veulent à observer les peintures. Vraiment comme, comme les premières œuvres d'art de l'humanité. Voilà.
Et alors là, on arrive dans la fameuse salle.
Salle des taureaux, la rotonde, où on a une cavalcade de chevaux et de grands taureaux, ou de rocs, avec... un ours, un bison, un animal qu'on appelle la licorne, puisque c'est un animal un petit peu hybride, un animal très bizarre. Et on a vraiment l'impression de grandeur et de vitesse.
Donc on a du noir, du rouge, du jaune.
On peut imaginer, là, les hommes préhistoriques avaient presque une immense page blanche, assez grande, circulaire, où ils pouvaient donner libre cours à leur imagination. On peut imaginer, là, dans aucune autre grotte, on a des animaux aussi grands que ceux-là, par exemple, et avec autant de polychromie. On peut imaginer qu'ils ont imaginé un scénario et que c'était à peu près le même groupe de personnes qui ont peint toute cette partie. comme on peut imaginer que dans le diverticule axial, la partie qui prolonge cette salle des taureaux et qui s'enfonce dans l'ascot, là où on a beaucoup de chevaux qui ressemblent aux chevaux chinois d'époque Ming et Tang, là on peut imaginer que ce sont d'autres personnes qui ont peint parce qu'on a presque une autre facture. Des animaux avec le museau beaucoup plus dessiné, les pattes qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus nettes.
Pour vous, il y a des styles différents en fait, selon les endroits de la grotte.
Oui, pour moi, il y a des styles différents, effectivement.
Ce sont les mêmes animaux, mais pas forcément peints de la même façon, gravés de la même façon.
Voilà, on a, peut-être suivant les époques, des envies différentes, des styles différents, des personnalités différentes. Mais c'est toujours le problème. On peut tout imaginer et on ne peut rien prouver, c'est ça. On ne peut pas savoir si les hommes ont gravé pendant 100 ans, pendant 10 ans, pendant 1000 ans, pendant 2000 ans. On n'a aucun moyen de le savoir.
Alors que vous l'avez fait en combien de jours ?
3 ans et demi.
3 ans et demi. On imagine que la grotte les a inspirés aussi, la forme.
Oui, je pense, oui. Quand on rentre dans la vraie grotte, on sent que c'est un lieu qui est chargé d'énergie. Donc je pense qu'ils se sont servis de cette énergie pour faire ça. Et on s'est servi aussi de cette énergie pour réaliser ça.
Même si vous étiez en dehors de la grotte.
Même si on était en dehors de la grotte. Mais comme on reproduisait le volume de la grotte, je pense qu'on a... On a profité de ces énergies aussi. Et puis pour les hommes préhistoriques, c'était compliqué quand même. Il fallait rentrer dans un environnement sombre qu'ils ne connaissaient pas. Dans certaines grottes, ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir des ours, des animaux qui hibernent. À Lascaux, il n'y avait pas d'animaux qui hibernaient. C'est une petite grotte et on n'a pas retrouvé, par exemple, de bauges d'ours ou des choses comme ça, comme on retrouve dans certaines autres grottes. Mais quand même, c'était un environnement qui était plutôt hostile pour eux. Il fallait s'enfoncer sous terre dans un environnement qui était froid. Peut-être qu'en peignant, ils dansaient en même temps. On peut imaginer ça. Peut-être, certainement, ils faisaient de la musique aussi. On ne peut pas faire une œuvre aussi immense sans mêler tous les arts, je pense.
Peut-être.
Peut-être. On peut se poser toutes les questions du monde par rapport à ça. Qu'est-ce qui les poussait à peindre des choses Par exemple, ils peignaient 80% de leur alimentation, c'était le renne. Dans la grotte, il y a simplement un renne qui est peint, enfin qui est gravé, même pas peint. Donc c'était pas pour la chasse, par exemple, pour mieux chasser, c'était est-ce qu'ils voulaient transmettre ? Mais c'est toutes ces questions qu'on s'est posées aussi, et qu'on se posait quand on faisait le facsimilé, quand on essayait de reproduire les peintures, c'est essayer d'imaginer. Parce que ça nous aidait aussi de se poser ces questions. On essayait d'imaginer quelle pouvait être leur vie.
Et ça vous aidait à reproduire ?
Ça nous aidait parce que ça nous rapprochait d'eux, en fait. C'était un petit peu se mettre dans leur peau à travers les âges. C'était un moyen de les comprendre. Quand on comprend les gens qui ont fait une peinture, on arrive mieux à reproduire ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. On voyait ça comme d'autres peintres à travers les âges. Quelle était la sensibilité de ces artistes qui sont proches de nous, qui sont les mêmes, qui partaient, eux, de rien.
Et avec quels outils vous avez travaillé ?
Alors, on a travaillé la plupart du temps avec des pinceaux, des tampons aussi, et des pochoirs, comme eux travaillaient, avec des outils un petit peu plus perfectionnés que ce qu'ils avaient, mais à peu près les mêmes choses, en fait. En essayant de s'approcher le plus possible de leur technique. Et en même temps, pour reproduire les gravures, par exemple, on a... Les hommes préhistoriques ont utilisé des silex puisqu'ils travaillaient sur du calcaire. Nous, on travaillait sur une âme en polystyrène recouverte d'un enduit qui était assez mou, donc on ne pouvait pas travailler de la même façon. Donc il a fallu travailler avec des outils de dentiste, avec des fraises pour essayer de reproduire la façon dont les gravures étaient faites dans la paroi calcaire.
Ce n'étaient pas les mêmes outils.
Pas du tout, pas du tout. On voit à certains moments que la peinture a coulé, par exemple. Donc on essaie de reproduire ces coulures. Parce que c'était notre but, c'était travailler d'artiste à artiste, en fait. Voilà. Dans le même élan, en fait. Être le plus sincère possible, comme eux avaient été sincères, certainement, en faisant ces peintures. Voilà.
Et l'art pariétal, l'art pratiqué par ces peintres de la préhistoire, a inspiré de nombreux artistes contemporains comme Picasso ou Soulages qui s'en sont revendiqués. Restez avec nous autour de la question comment rentrer dans la tête de nos ancêtres. On se retrouve dans un instant, mais tout de suite, Razal, c'est signé Yagmaël Kourosh et c'est sur RFI.
چشمه های روشن زیر نور تند آفتاب، یه غزال خوش خط و خال با طبیعت مهربون بود، همیشه میدید که بالا پاک و روشن آسمون بود، عاشقی بوی علف ها هم دل گل خنده ها بود، هم راز جنگل سبز و نغمه پرنده ها بود، تو آینه یه چشمه میدی مستی چشمه خمارش، دلش میخواست باشه دائم رنگ گل ها در کنار، پیش بود سایه غریب میدی تو کمینش، چه کسی بود اینو از خودش میپرسی، تو گریز و وحشت خود رفت از این دشت آبه بودشت، دیگه طاقتش تموم شد زد و از بیراه بگذشت، چه روزایی که گذشتن در هراس و پا کشیدن، دلش تو سینه می لرزید از نشون سایه دیدن، این سوالو هی می پرسید چرا از من خوشی دوره، این خشم طبیعت یا سرنوشت نحس و کوره.
Autour de la question « Comment rentrer dans la tête de nos ancêtres ?» Reportage aujourd'hui. Certains archéologues reproduisent, on l'a entendu dans l'émission, des outils datés de 2,3 millions d'années sur le modèle de ceux retrouvés en Éthiopie ou même de 3,3 millions d'années au Kenya. Mais l'archéologie expérimentale est aussi pratiquée pour des périodes récentes de notre histoire, encore plus proches de nous. L'Antiquité notamment inspire de nombreuses expérimentations. Je suis allée voir le laboratoire de Guillaume Huitoret, docteur en archéologie. Il travaille au sein de l'unité mixte de recherche archéologie de la Gaule dans le monde antique, rattachée à la maison de l'archéologie et de l'ethnologie de l'université Paris-Nanterre.
Alors là, c'est un outil qui n'est pas facile à décrire justement, parce qu'il a une forme particulière. On a donc la lame qui part d'abord droite et ensuite qui est échancrée, en fait, qui marque un angle aigu.
Comme le chiffre 1, en fait.
Voilà, un peu comme le chiffre 1, tout à fait.
Et donc c'est une lame. Et le matériau, qu'est-ce que c'est ?
C'est du fer. En Gaule romaine, on en a énormément, on a de l'outillage en fer sur les sites, et notamment les établissements ruraux, quoi, les fermes de l'époque, on en a beaucoup. On va en retrouver au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais on va en retrouver beaucoup entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ.
Donc vous avez retrouvé ces objets-là, voilà. Et vous en avez reproduit certains.
Voilà. Exactement. Donc on va prendre une dimension qui semble, on va dire une dimension moyenne par rapport à tous les objets qu'on a inventoriés.
Donc là, c'est un peu moins de la longueur de la main.
Voilà, c'est ça. Et on va le reproduire. Donc là, je ne suis pas forgeron, donc je l'ai commandé à un forgeron. Hein. On a la chance d'avoir en France et même plus généralement en Europe beaucoup de forgerons qui travaillent sur des objets anciens.
Vous avez utilisé la reproduction de cette lame ?
Alors oui, on l'a utilisé. Pourquoi on a développé cette expérimentation ? C'est parce que on n'était pas sûr de l'interprétation.
À quoi servait cet outil ?
Voilà. En fait, un outil, il va avoir sa structure, sa forme. Bon, après, ce qui reste souvent le point d'interrogation, c'est le manche. Parce que là, par exemple, on voit qu'on a un outil à douille, donc on sait qu'on a un manche.
Parce qu'il y a concrètement un trou, en fait, qui permettrait de suspendre cette lame.
Voilà. Mais je ne peux pas déterminer la longueur du manche. Or, ça fait partie intégrante de l'outil. Donc, en fait, on a rarement des outils entiers en archéologie. Comme pour toutes les périodes, on ne va pas retrouver les matériaux qu'on appelle les matériaux périssables, hein, donc le bois ou encore l'osier. C'est déjà une grosse difficulté, mais ça va à peu près. Mais ensuite, il reste de grosses questions. C'est la fonction et le fonctionnement de l'outil, c'est-à-dire à quoi il sert et comment on l'utilise. On ne va pas réussir à le déterminer en restant à la bibliothèque. Et c'est là où je pense que l'archéologie expérimentale fait la différence. Je me suis rendu compte que cet objet, il n'était pas interprété pareil d'un spécialiste à un autre. Globalement, vu qu'il y a une lame tranchante, c'était un objet pour couper. Ça, c'était une chose qui était à peu près acquise. Mais un coup, c'était un objet qui était identifié en fait comme quelque chose comme un coupe-gui, donc pour couper le gui dans les arbres, ou des petits ébranchoirs pour couper, pareil, des branches de faible diamètre. Donc en tout cas, dans les deux cas, couper quelque chose en hauteur plutôt dans les arbres. Ou bien, il y avait d'autres hypothèses qui voulaient que cet objet soit un échardonnoir, tout simplement un outil pour couper les chardons, c'est-à-dire en fait des mauvaises herbes, dans les champs, pour en fait nettoyer le champ.
Donc là, ça serait plutôt un outil utilisé
au sol, du coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les deux hypothèses, elles étaient intéressantes parce qu'il y en a une, on levait la tête et l'autre, on regardait au niveau de nos pieds. C'est ça que je voulais vraiment tester. On l'a fait. On va se tenir donc debout dans le champ. On va avoir un manche qui est quand même assez long, qui fait un mètre, voire plus d'un mètre. On a le chardon. On va vraiment passer la lame autour de la tige du chardon et vraiment tirer vers nous.
Dans le cœur, en fait, du V que
voilà,
fait la lame.
Dans le cœur du V, voilà. Dans le cœur, vraiment dans cet angle aigu que forme la lame. Et donc là, ça va couper net. Voilà.
Vous êtes aussi mis à la place des gens qui ont utilisé ces outils, avec leurs gestes.
Oui, du coup, on s'est retrouvé à la place de personnes qui utilisaient ça, il y a 2000 ans, sauf que bah, nous, on n'a pas ce savoir-faire. Le principal problème qu'on va rencontrer, ce n'est pas forcément l'objet lui-même, c'est surtout nous, la manière dont on va l'utiliser, puisqu'on ne sait pas le faire, ou en tout cas, on ne sait plus le faire. On n'a pas de doute aujourd'hui sur le fait qu'on avait une transmission des savoir-faire à l'Antiquité, même à toutes les périodes historiques, et qu'en fait, ils savaient les utiliser parfaitement, alors que nous, en fait, on doit réapprendre. Mais souvent, le plus intéressant dans l'archéologie expérimentale, c'est pas ce qu'on réussit, mais c'est ce qu'on rate. Et en fait, souvent, les meilleures données, elles viennent de nos échecs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'échardonnage s'est avéré plus performant avec cet objet que de couper quelque chose dans les arbres. Mais c'est vrai que pour l'Antiquité et la période romaine, on va avoir davantage de sources de données. On pourrait penser aux textes, aux images, donc à l'iconographie. Malgré tout, je pense que pour toutes les périodes historiques, les objets et les bâtiments ont leur propre histoire. C'est intéressant de rendre ces outils-là vivants, de les reconstituer pour mieux se les approprier et mieux comprendre les problématiques et les enjeux qu'on a autour de ces objets et de ces vestiges.
Se mettre dans la tête de nos ancêtres, même à l'Antiquité, c'est encore un défi. Certaines équipes de recherche travaillent à reproduire les magnifiques poteries retrouvées en Égypte, et ce n'est pas simple. Comment cuire la céramique, comment obtenir leur belle couleur ocre et les façonner. En France, des chercheurs reproduisent aussi des silos à grains de l'époque gauloise, ces fosses dans lesquelles on conserve les céréales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un travail très manuel et précis. Avec sa dimension artisanale, l'expérimentation fait appel à d'autres disciplines que l'archéologie, puisqu'elle fait aussi appel à la maçonnerie, l'ébénisterie, l'agronomie ou même la pratique de l'arc pour nos fameuses flèches en silex utilisées en Syrie il y a 10 000 ans, quand la science s'ouvre pour mieux comprendre qui nous avons été et qui nous sommes.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Comment rentrer dans la tête de nos ancêtres ? Reportage réalisé par Hugo Violas. Merci à tous pour votre écoute et surtout, gardez l'oreille ouverte et curieuse.